30 minutes chrono, l'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors cette semaine, dans cette chronique qui se veut un peu dérangeante en dénonçant certains dérives du sport et de ses à côté, j'aimerais revenir dans un premier temps sur les conditions de l'attribution pour 2022 de la Coupe du Monde de football à un minuscule état du Golfe Persique que nous connaissons de plus en plus pour ses investissements pharaoniques dans notre pays. Le PSG en étant la tête de gondole. Le Qatar, dans un deuxième temps, nous irons voir si tout est si rose pour les travailleurs du pays dont le PIB est le premier du monde. En janvier dernier, France Football en a parlé. Il a parlé d'un Qatar-gate mêlant corruption et arrangement concernant l'attribution par la FIFA du Mondial 2022 à ce petit État. En lettres blanches sur fond noir, le journal soulignait que cette désignation dégage une odeur de scandale qui oblige à se poser la seule question qui vaille, ce vote doit-il être annulé? En décembre 2010, le choix du Qatar comme pays organisateur, 14 voix pour sur les 22, contre les États-Unis d'Amérique, avait été accueilli à la surprise générale. Malgré des problèmes liés aux infrastructures et aux conditions météorologiques, sa candidature l'avait emporté. Quelques explications. Disons que le pays le plus riche du monde a peut-être su avoir les arguments nécessaires, l'argent. France Football a étayé ses dires avec du concret, en évoquant des actes de collusion et même de corruption. Le Qatar se serait ainsi appuyé sur les puissants relais, comme le président de la Fédération asiatique, Mohamed bin Hamman, définitivement radié à vie en décembre 2012. Le président de la Fédération argentine et vice-président de la FIFA, Julio Grondona, et l'ex-président de la Fédération brésilienne, Ricardo Teixeira. Celui-ci a démissionné en mars du comité de la FIFA et de la CBF sur fond d'accusations de corruption. Un rapport du tribunal arbitral du sport souligne également qu'un certain nombre d'enveloppes, contenant environ 40 000 dollars, c'est pas grand-chose, 29 700 euros en gros, ont été distribués aux délégués de l'Union caribéenne de football lors d'une réunion organisée à Trinidad et Tobago, c'était en mai 2011. Oui, mais ce n'est pas tout. La France a-t-elle aussi un peu aidé le Qatar pour que le pays obtienne la vitrine de ses rêves? Certains évoquent une réunion secrète au Palais de l'Élysée le 23 novembre 2010, une dizaine de jours avant le vote de la FIFA. Réunion entre le président de la République, Nicolas Sarkozy, le prince du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, Michel Platini, président de l'UEFA, et Sébastien Bazin, représentant de Colony Capital, propriétaire du PSG alors. Le PSG en proie de grosses difficultés financières d'ailleurs. Au cours de cette réunion, il aura été question entre autres du rachat du PSG par les Qataris, de la création d'une chaîne de sport, vous savez, la future chaîne beIN Sport qui va concurrencer Canal+. Sarkozy voulait fragiliser Canal+ pour de multiples raisons. Le tout en échange d'une promesse que Platini, président de l'UEFA, ne donne pas sa voix aux États-Unis comme il l'avait envisagé. Bon, affaire à suivre. Voilà pour l'attribution. Mais maintenant, il faut se mettre au travail. Le quotidien britannique The Guardian, daté du jeudi 26 septembre 2013, il y aurait aussi des dégâts collatéraux sur les chantiers des futurs stades. Le Qatar est plein de fric, mais possède un climat un peu, disons, trop chaud pour pousser la baballe pendant 90 minutes en plein été. Alors les travaux de construction des infrastructures sont vraiment dignes des pharaons de l'ancienne Égypte. La planète pourra attendre pour les réductions de dépenses énergétiques. Au Qatar, on va climatiser les stades. Mais avant de profiter d'une agréable fraîcheur, les travailleurs, eux, sont soumis à un rythme de travail que n'auraient pas renié les esclaves venus élever les pyramides. Selon The Guardian, ils sont étrangers, ce sont les immigrés du Qatar. Ils viennent d'Asie avec le mirage qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, enfin, pour eux. Après, ils pourront l'envoyer à leur famille, peut-être. Ils sont 1,5 million, ils viennent aussi de Somalie et de grande partie de l'Afrique. Ils sont donc 1,5 million à avoir fait le voyage. Pour 44 Népalais, le voyage est déjà terminé. Ils sont morts, victimes d'arrêts cardiaques ou d'accidents de chantier. Ils travaillaient 15 heures par jour, sous une chaleur épouvantable. Le thermomètre peut monter jusqu'à près de 50 degrés au cœur de l'été. À leur arrivée, on leur avait confisqué leurs passeports, pratique courante au Qatar, pour faire pression sur les immigrés. Les compagnies qui les exploitaient avaient aussi retenu leur salaire, quelques mois, pour être sûr qu'ils ne partiraient pas. En effet, pour ces 44-là, ils ne risquent plus de partir en courant. Pour les autres, le gouvernement qatari a promis d'enquêter. Avec des enveloppes de billets bien distribuées, je pense que tout devrait rentrer dans l'ordre pour cette monstrueuse Coupe du Monde qui, 9 ans avant d'exister, fait déjà partie de l'histoire du sport. Aujourd'hui, ce sera l'invité. Alors, 30 minutes chrono reçoit Sébastien Bonin pour l'école de judo de Montpellier Agglomération. Alors, rebonjour, on s'est déjà salué.
Rebonjour, effectivement.
Mais là, on va parler un peu ensemble. On ne va pas faire que bonjour, hein. On va aller un peu plus loin que ça. Hein.
D'accord.
Alors, l'occasion pour nous donc d'évoquer votre sport. Alors, votre sport, c'est le...
C'est le judo, effectivement.
Le judo. Alors, le judo, c'est un sport quand même qui est un petit peu phare en France. On en entend parler peut-être que pendant les Jeux Olympiques ou les grandes compétitions mondiales, mais il y a quand même beaucoup de participants. Vous avez une idée de...
On est à 650 000 licenciés à peu près en France. On doit être quatrième fédération, je crois, à peu près au niveau national. Donc c'est une très forte fédération, effectivement.
C'est très important. Et puis, comme je dis, c'est une vitrine pour la France, puisque ça fait partie des sports qui nous ramènent beaucoup de satisfaction, que ce soit aux Mondiaux ou aux Jeux Olympiques.
Oui, effectivement. En général, aux Jeux Olympiques, ça fait partie des sports qui sortent bien. Et là, dernièrement, on a eu les championnats du monde à Rio, avec une équipe féminine un petit peu en dessous de ses résultats habituels. Mais
certaines qui prennent leur retraite aussi, je crois. Hein.
Oui, Lucie Decosse, ouais. Qui arrête notamment, qui a été une grande championne, qui est une grande championne et a eu de nombreux titres. Mais le relais a été pris là par les garçons et qui, pour la première fois, passe devant les féminines sur les résultats.
Voilà, et puis donc, non seulement il passe devant la féminine, mais c'est aussi, je pense, le pays qui concurrence le plus, le Japon.
Oui, effectivement, il y a le Brésil, la Russie qui commence à monter en puissance, mais la France reste une place forte depuis plusieurs années, effectivement.
Et puis après, on a ce monstre sacré, Teddy Riner.
Ouais, Teddy, ouais, c'est quand même un cas exceptionnel.
C'est exceptionnel parce qu'il a été champion du monde à 18 ans, à Rio d'ailleurs, si je me crois, la première victoire à Rio. Et là, il retourne à Rio et il est champion du monde pour la
sixième fois.
Sixième titre, et il est encore jeune.
Oui, il doit avoir 22 ans, je crois, un truc comme ça.
Mon Dieu, c'est impressionnant. Bon, là, on ne va pas parler que des grands champions, bien entendu. Là, c'était juste une petite introduction. Si ça ne vous dérange pas, je vais vous poser quelques questions un peu pour les nuls, hein, pour les nuls ceux qui ne connaissent pas ce sport. Hein. Alors, les ceintures, on sait que ça part de la blanche au noir, mais alors, comment ça évolue? Dites-moi un peu les couleurs, si c'est possible.
Alors,
si ça ne vous embête pas. Hein.
Non, ça ne m'embête pas, bien sûr. Donc, il y a plusieurs ceintures. Maintenant, il y a des ceintures bicolores. Avant, il n'y avait que les ceintures blanches, jaunes, oranges, vertes.
Ça, c'est du tout temps où j'étais jeune.
Voilà, c'était ça, ouais. Et maintenant, il y a des ceintures bicolores. Donc, on est à blanche, blanche, jaune, 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 orange, pour permettre que tous les ans, les enfants puissent avoir une progression. On a des âges planchers. Donc, à 6 ans, quand ils débutent, ils sont ceinture blanche. Et puis ensuite, ils passent blanche, jaune à 7, jaune à 8, etc. Et puis maintenant, on a même les ceintures pour les 4 et 5 ans, qui ont un petit liseré jaune à 5 ans et deux liserés jaunes à la fin de leur deuxième année de baby judo.
Alors, comme on parle de jeunes, donc le judo, c'est un sport quand même d'insertion dans la société. C'est un sport aussi de respect des autres, je pense. Alors, en tant qu'éducateur, vous recevez donc des enfants, vous m'avez dit, si jeunes, hein, ça commence vraiment...
Ah oui, on commence à partir de 4 ans, effectivement. Ouais.
Et je suppose que ça se passe chez vous le mercredi ou le samedi, ça doit être...
Alors, on a le mercredi, on a fait le choix volontairement de ne pas faire le samedi parce qu'on a beaucoup de compétiteurs et qu'il faut les suivre. Mmh. Donc, c'est difficile de se dédoubler. Par contre, on a effectivement le mercredi qui est la grosse journée, le vendredi soir, plus des créneaux avec la classe sportive là, du collège Lascaz le lundi et le jeudi.
Alors, pour les bébés, c'est de 16h à 16h45, si je ne me trompe pas en lisant
votre...
Oui,
c'est ça, il n'y a pas de
changement. Donc, pour s'inscrire à ces écoles de judo, est-ce que c'est encore possible?
Ah oui, c'est tout à fait possible. On est en pleine rentrée. On a encore des gens qui s'inscrivent régulièrement toutes les semaines, à chaque cours. J'ai encore des appels régulièrement pour venir. Donc, en général, au mois de septembre, les gens essaient les activités, se mettent dans la rentrée, puis au fur et à mesure, commencent à venir sur les clubs. Donc oui, bien sûr, ils peuvent venir toujours.
Et on peut débuter même si on n'a pas 4 ou 5 ans. Je suppose que quand même quelqu'un qui a une dizaine d'années peut commencer le judo.
Ouais, 10 ans, mais même encore plus. Oui. Il y a deux jours, j'ai eu un appel d'une jeune femme de 23 ans. J'ai des parents d'élèves d'une quarantaine d'années qui démarrent le judo. Voilà, tout le monde peut démarrer.
Tout le monde peut démarrer. C'est donc très bien pour vous contacter. Donc, on vous contacte au collège Lascazes ou sur votre téléphone?
Alors, directement sur le numéro de téléphone.
Ah bah, je vais le donner. Alors, voilà, c'est Sébastien Bonin et le téléphone, c'est le 06 40 05 91 03. 06 40 05 91 03. Donc on va revenir un peu aux règles aussi. Alors, un combat, ça dure combien de temps? Parce que c'est très violent, un combat très violent, je veux dire pas dans la violence, mais dans le côté physique.
Alors oui, effectivement, donc un combat dure 5 minutes en temps effectif, mais avec les pauses, on est sur du 8 minutes à peu près avec les matés, donc les temps de pause. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de qualité physique, au-delà de tout le travail technique qu'on fait plus jeune. Après, il faut beaucoup d'entraînement physiquement, musculairement, au niveau cardiaque, il faut être au top pour pouvoir tenir. Ouais.
Oui, c'est un sport, on n'a pas forcément cette impression-là quand on est un profane, hein, mais c'est un sport explosif, on peut dire. Hein.
Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. L'entraînement, d'ailleurs, se base sur beaucoup de petites séquences. Il y a extrêmement séquencé avec les matés, effectivement, qui arrêtent. Donc, on est sur des séquences de 20-30 secondes et où, à chaque fois, bah, il faut essayer de marquer, il faut être...
Donc, les deux judokas doivent porter des attaques. Et après, il y a tout un système de notation, on peut dire, de si ça compte, qui compte pas. Parce que là, quand on est profane, des fois, on voit un match de judo et on comprend pas tout. Mais on a compris que le mieux, c'est le hippon, hein, c'est ça?
Voilà, donc c'est en fonction des impacts, en fait. Donc, le hippon, c'est quand on tombe à plat dos avec de la force, de la vitesse, que tout est contrôlé. Donc là, c'est vraiment l'impact total. Et après, il y a différentes valeurs. Le yuko qui est sur le côté quand on tombe sur la tranche et le wazari qui est un peu entre les deux, entre le hippon et le yuko.
Et puis, il y a les immobilisations aussi, je crois.
Alors, il y a tout le travail en newaza, le sol, donc le newaza, comme on appelle en japonais, avec les immobilisations, les clés de bras et les étranglements. Tout le travail de soumission, effectivement, aussi.
Voilà. Alors, c'est un sport qui vous permet aussi de recevoir peut-être des jeunes dans ce collège qui ont besoin d'avoir une structure qui les entoure, qui les aide.
Bah effectivement, là, on a mis en place depuis 3 ans un partenariat avec le Collège Ascaz, avec Supagro, la Ligue Languedoc-Roussillon également. Donc, c'est pour ça qu'on est dans le gymnase du collège qui est utilisé également donc, par le collège, par Supagro, et où on permet, dans ce dispositif, on a réussi à avoir des financements pour pouvoir aider les jeunes du quartier. On reçoit beaucoup de jeunes du quartier Cévennes et Petit Bar, et finalement, eux ne payent que leur licence. On leur offre des kimonos et puis ils ont jusqu'à 4 créneaux par semaine, et ça leur permet dès l'entrée en 6e de venir et de pratiquer. Et là, j'ai ma première génération qui commence à être ceinture marron, qui ont commencé en 6e et peut-être les premières ceintures noires. Et tout ça, c'est relayé avec un travail que je fais, soit avec de l'accompagnement éducatif, soit directement en intervenant dans les écoles sur le temps scolaire, avec toutes les écoles sur Petit Bar, sur l'école Baudelaire qui est juste à côté du collège Ascaz. On fait tout un travail de réseau, d'initiation, pour essayer d'amener tous les jeunes vers le judo au maximum et leur faire découvrir cette activité.
Et comment vous êtes perçu par ces jeunes au début? Pour eux, le judo, ils doivent voir ça un peu d'une façon étrange, c'est un sport de combat, mais après, de leur apprendre toutes ces règles, que ça doit être tout un mécanisme qui se met en place pour eux et qui leur permet peut-être d'avoir une vision individuelle, mais aussi collective de ce sport.
Ben justement, maintenant, on est dans la transmission. Le plus dur, ça a été la première année, parce qu'effectivement, j'avais que des débutants. Donc, je m'appuyais, comme j'avais des judokas d'un autre club où j'intervenais. Je me suis appuyé sur quelques anciens, un ou deux anciens au début pour les aider. Et puis maintenant, quelques années après, les petits qui rentrent en 6e, déjà, je les ai peut-être eus en CM2, en CM1 sur les initiations. Et surtout, quand ils rentrent au collège, ils ont des grands collégiens, on n'aurait pas cru il y a 4 ans, mais qui maintenant les prennent en main, d'où tout le côté collectif effectivement, et qui les voilà, ils savent que quand ils montent sur le tapis, ils doivent le respect et les règles, j'ai même plus besoin de les rappeler, ça se fait naturellement maintenant, la transmission elle se fait d'année en année, et ça c'est une grande réussite.
Aujourd'hui, ce sera l'invité. Alors, dans 30 minutes chrono, j'ai le plaisir de recevoir Marc Torine. Rebonjour.
Rebonjour.
Alors, donc, on va parler, bien sûr, de la SPTT Montpellier, mais avant, un tout petit historique très rapide des ASPTT. Alors, j'ai pris ça sur un site de la SPTT. Hein. Ils étaient bien entreprenants, voire téméraires, ces jeunes postiers bordelais. Pour la plupart facteurs ou télégraphistes qui décidèrent en 1897 de se regrouper pour pratiquer ensemble leur sport favori, le cyclisme. Avec une grande dose d'inconscience, ils ne savaient pas qu'ils posaient alors la première pierre, d'une formidable pyramide associative et sportive qui allait réunir 160 000 licenciés un siècle plus tard. Ils fondaient aussi la première association sportive PTT qu'ils baptisèrent Union Cycliste des Postes et des Télégraphes de la Gironde. Alors, dès 1945, une fois réunis en union des ASPTT et soutenus en partie par une charte sportive, les ASPTT s'affirment comme une grande famille sportive, on peut dire ça ?
Tout à fait.
Fer de lance du sport français. Elles sont aujourd'hui ouvertes à tous, et pour leurs champions comme pour leurs adhérents, les plus novices, elles favorisent le pratique sportive dans un état d'esprit, disons, solidaire et fraternel. Est-ce que ça vous va comme introduction ?
Oui, exactement. C'est tout à fait un historique qui correspond à notre association.
Mais c'est normal, je l'ai piqué. Hein. Je l'ai piqué en grande partie. J'ai un peu arrangé, mais c'est en grande partie piqué sur un de vos sites. Alors là, on va parler de la SPTT Montpellier. Alors d'abord, en quelques mots, combien de personnes, de licenciés, combien de sports ?
Alors en effet, pour revenir sur votre historique 30 secondes, l'SPTT Montpellier, elle a été créée en 1931. Donc on a fêté notre 80e anniversaire en 2011. Donc c'est aussi une des plus anciennes à SPTT et qui a continué à évoluer pour aujourd'hui atteindre 4000 adhérents. Donc regrouper environ 24 activités ou sections sportives.
4000 adhérents, je pense que vous êtes l'association sportive la plus grande de Montpellier.
Oui, on est l'association sportive la plus grande du Languedoc-Roussillon.
Oui, parce que là, quand même, 4000, c'est quand même beaucoup, beaucoup. Alors, plein d'activités, vous avez dit que
24 sections et activités.
Alors bon, on ne va pas pouvoir tous les citer, bien entendu, ça serait impossible. Votre siège social, il est à quel endroit ? Vous êtes...
Sur Montpellier, 237 route de Vauguière, derrière le rond-point de Richter.
D'accord, vous êtes juste à côté de Richter, oui, c'est ça. J'avais regardé ça, 237 route de Vauguière, oui, en effet. Et un téléphone que je vais donner, le 04 99 52, 60, 70.
C'est bien ça.
Voilà, oh, c'est bien les papiers, on ne dit pas trop de bêtises. Des fois, ça m'arrive de dire des bêtises, alors vous n'hésitez pas à me couper. Alors, l'ASPTT, donc, vous êtes, qu'est-ce que vous représentez au sein de cette association ?
Alors, je suis le directeur sportif de l'ASPTT Montpellier, c'est-à-dire que je coordonne et j'organise l'activité sportive de ces 24 activités et sections, même si parmi ces activités, il y a des sections, je dirais, quasiment autonomes, comme la section football, la section basket, les sections en particulier de compétition, avec un bureau, des dirigeants. Mais il y a quand même une politique générale dictée par un conseil d'administration que je suis en charge un petit peu de faire
coordonner
exactement. Voilà. Parce que après, il y a l'organisation de toutes les autres activités qui n'ont pas de bureau et de dirigeants et que nous coordonnons directement, nous, au niveau du siège de la SPTT.
Oui, certains sports peut-être pas aussi connus que le football, des choses comme ça. Donc, il y a des sports peut-être plus confidentiels dans votre association ?
Ah oui, tout à fait. Par exemple, on a lancé la Zumba l'année dernière.
Ah, qu'est-ce que c'est ça ?
La Zumba, c'est le dérivé un peu du fitness, mais mode danse, mode jazz, et donc c'est en grande vogue actuellement, et donc c'était pas du tout une activité qui était forcément destinée au départ à une SPTT traditionnelle. On a lancé ça, on a 80 adhérents, ça marche très très bien.
Ah oui, et vous vous occupez aussi, j'ai remarqué, beaucoup de sport féminin.
Ah, tout à fait. Alors, on est une ASPTT très féminine, parce qu'on a quand même 40% de nos adhérents qui sont féminins, ce qui est quand même un pourcentage important.
Dans le milieu sportif.
Dans le milieu sportif, tout à fait. Et même au-delà du nombre de féminines que nous avons, on a toujours eu une image et de sport féminin, même en compétition. Dans les années 70, la SPTT Montpellier Volleyball a été 6 ou 7 fois championne de France de première division.
Je me souviens de ça. Oui.
Et aujourd'hui encore, notre équipe féminine de tennis joue en National 1. Dans la section natation, nos meilleures représentantes, même si les garçons vont m'en vouloir, sont des nageuses. Avec Mylène Lazare qui a été il y a quelques années médaillée aux championnats d'Europe. Et une jeune fille actuellement qu'on espère qualifier pour les JO de Rio. Donc on est très très féminin.
Ouais. Et donc pour revenir aux femmes, vous avez une section football féminin aussi.
Ah oui, c'est la dernière création. Ouais. On a pris le wagon. La Fédération française de football est très très axée sur le football féminin actuellement. Et donc on a pris le bon wagon. Et grâce à notre permanent à la section football, en effet, je crois pouvoir dire qu'on est devenu une des sections féminines les plus représentatives du Languedoc.
Oui, et en plus, le foot féminin commence à avoir vraiment, devient un sport populaire. Hein. Alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Maintenant, les gens s'intéressent, par le biais de l'équipe de France, entre autres, qui a fait plaisir par la qualité de son jeu et le côté sympathique de ses joueuses. Je crois que ça a porté un nouveau regard. Il ne faut pas oublier, par exemple, que le football féminin aux États-Unis, c'est le sport numéro un pour les filles. Hein. Donc, il n'y a pas que les garçons qui sont capables de taper dans une balle ronde. Et puis, ils gagnent peut-être beaucoup moins d'argent, ce qui fait qu'ils sont peut-être plus accessibles au public.
Oui, je crois que ça redonne ça redore un peu l'image d'un football qui est un peu en difficulté au niveau de son image, en tout cas. Et c'est vrai que le football féminin prend une grande part, et on se rend compte que l'œil même aussi des footballeurs masculins ont changé. Ils ne voient pas le football féminin pareil. Nous, l'année dernière, on a rencontré l'Olympique de Marseille en Coupe de France, que nous avons battu d'ailleurs.
Bravo.
Voilà, tout à fait. Et on avait un stade, je pense, à la SPTT Montpellier, qui n'avait pas vu autant de monde depuis très longtemps. Donc, c'était vraiment une belle après-midi.
Oui, alors donc, d'autres sports phares avec des champions dans la SPTT, à part, donc, on a vu des championnes. C'est vrai, vous avez de la natation, vous en avez parlé, mais il y a d'autres sections qui ont des champions vraiment de haut niveau.
Alors, les deux sections phares en termes de compétition, c'est quand même la natation actuellement et le tennis.
Voilà. Alors, justement, puisqu'on parle du tennis, vous avez écouté ma petite chronique, vous n'avez pas un maghrébin qui joue avec un israélien chez vous ?
On ne l'aura pas cette année, mais on a eu des Sri Lankais, on a des joueurs étrangers qui viennent jouer. On n'a jamais eu ce problème qui a été posé, mais c'est quand même assez incroyable.
Ouais. Et je crois que la SPTT, vous m'avez dit, avait reçu Sarcelles, il n'y a pas...
Oui, on a déjà joué Sarcelles en match par équipe, donc...
Donc, sachez que, donc, des fois, dans le double, il y a un Israélien et un Tunisien, mais ils n'ont pas le droit de jouer ensemble.
Nous, on les jouera avec plaisir.
Ah oui, bien sûr. C'est tellement ridicule quand on réfléchit. Le sport, ça doit être quelque chose de fraternel, d'ouvert et d'universel, on peut dire.
Ah, dans une association comme la nôtre, le premier vecteur, c'est ça. C'est le vecteur de la convivialité, le vecteur de l'intégration, de la mixité, le vecteur social. Nous, on travaille beaucoup là-dessus. On travaille beaucoup avec la mairie de Montpellier sur des actions sociales, avec des jeunes d'un milieu un petit peu plus défavorisé. Notre base, c'est ça. Après, si on arrive à faire de la compétition, c'est très bien.
Bien sûr, j'ai bien compris, la compétition, ça reste que la vitrine. Le travail de fond, c'est quand même toute l'insertion, le travail social, avec les quartiers, je suppose, essayer de faire que ces jeunes aient quelque chose à faire, que ça ne leur coûte pas trop d'argent aussi, peut-être.
Tout à fait, tout à fait. De toute manière, il n'y aura pas de vitrine sans une base. Hein. Il ne faut pas que les grandes instances du sport français oublient ça. Hein.
C'est le principe de la pyramide. Voilà. Hein. Si on veut avoir quelqu'un au sommet de la pyramide, il faut une sacrée base.
Exactement, hein. Exactement. Une base, des bénévoles, et c'est de plus en plus difficile dans les associations. Donc,
Vous savez, nous aussi, on est une radio associative, donc on sait ce que c'est que le bénévolat, on sait très bien ce que c'est que la difficulté de vivre. Comment ça fonctionne? Vous avez des subventions? Vous pouvez nous expliquer en quelques mots.
Oui, tout à fait. Oui. On a des subventions. On est très soutenu par la mairie de Montpellier et par l'agglomération de Montpellier. Hein. La mairie gérant justement le sport un peu de base et l'agglomération gérant un petit peu plus de sport de haut niveau. Donc, par les fédérations aussi, il ne faut pas le nier quand même. Les fédérations, il y a quand même des retombées, même si elles sont différentes suivant les sports et les fédérations, tout à fait. Mais en effet, oui, on fonctionne. Mais de plus en plus, on fonctionne en autonomie, c'est-à-dire par la création de nos activités, de nos stages et par les adhésions que nous faisons rentrer au fil de l'année.
Et les adhésions, on peut avoir une idée de ce que ça représente Ça dépend des sports, je pense.
Mais la moyenne d'une adhésion aujourd'hui, c'est environ 200 euros.
Oui, d'accord.
Grosso modo, à 20 euros près, c'est une adhésion à 200 euros.
À l'année,
pour une pratique qui se fait au moins 2 à 3 fois par semaine, quand même, au jour d'aujourd'hui. Hein.
Oui, donc ça reste quand même raisonnable, surtout quand on voit par rapport au club de sport, vous savez, aux salles de sport, qui coûtent une fortune hein, par
tout
rapport
à
ça, et qui ne proposent en fait que des instruments.
Oui, tout à fait. Oui, yep.
Alors que vous proposez quand même autre chose, avec, je m'en doute aussi, beaucoup de déplacements à gérer, des parents, des gens qui s'en mêlent aussi, pas que les gens de la SPTT.
Non, tout à fait. La SPTT, il y a quelques salariés, hein, 5-6 salariés qui travaillent pour ces 4000 adhérents.
C'est quand même
pas mal déjà, hein, c'est quand même pas mal. Hein, on est privilégié à ce niveau-là. Mais après, c'est une somme de bénévoles et en effet, après, une somme aussi de parents à qui on fait appel. Ou de sympathisants, parce qu'on a besoin en effet de tout le monde pour transporter les enfants, laver les maillots, toute la logistique que représente une association.
Voilà, et bien écoutez, on va se quitter, on va faire une petite pause musicale, on se retrouve juste après la pause. Hein. Le lancer du CD.
Ciel à ton chaud, le jour et la nuit, c'est de l'or entre tes mains. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Porte l'eau, porte-la bien, surtout fais attention, ne renverse rien. Fais l'effort, tu le sais bien, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Mais tu sais, les lionnes sont vraiment des reines, leur amour est le don. Plus jamais ne le reprennent. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Oui, tu sais, les lionnes sont vraiment, vraiment les reines. Porte l'eau, porte la vie. Tu dois courber le dos pour un peu de pluie. C'est de l'or entre tes mains. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Mais tu sais, les lionnes sont vraiment des reines. Leur amour, elle donne et plus jamais ne le reprennent. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Oui, tu sais, les lionnes sont vraiment